Décryptualité, semaine 38, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, on perd pas de temps, directement revue de presse.
Oui, une grosse revue de presse, hein, il y a 9 thèmes principaux.
Clubic.com, GNU Linux, 10 distributions incontournables pour bien débuter. Un article de Johan Gautreau.
Un article très intéressant, et justement pour les débutants, et qui vous liste un petit peu des distributions, des manières de commencer à installer un système d'exploitation libre. Donc c'est plutôt sympa, il y a des bonnes idées.
Journal du net, intelligence artificielle, restez open. Un article de Christophe Boitiot.
Quelque chose d'assez général, une chronique qui parle effectivement d'IA, même si ça reste compliqué comme sujet, et qui aborde par le fait qu'avec le cloud aujourd'hui, tout ce qui est informatique en nuage, il y a des gros outils qui favorisent les développements, et puis que l'open source est très important, notamment pour ne pas être bloqué avec certaines technologies ou certains fournisseurs. On peut passer de l'un à l'autre plus facilement.
Numérama, Mozilla renonce à l'envoi de fichiers et aux mémos synchronisés en fermant Send et Note. Un article de Julien Lausson.
Alors c'est dommage, c'était deux services dont il me semble que Notes était supposé pas trop mal fonctionner, mais il y a des gros mouvements en ce moment chez Mozilla, on en a parlé la semaine dernière, notamment le fait que les budgets sont en train de se réduire et donc ils réduisent la voilure, ils ont enlevé pas mal d'ingénieurs malheureusement. Mozilla continue à faire Firefox, ce qui est génial, donc moi j'adore et je vous encourage à l'installer malgré tout.
CIO Online, le ministère de l'Éducation nationale tente de justifier son choix de Microsoft, un article de la rédaction.
Donc, y a des gens qui se plaignent, le CNLL, et puis y a des remontées d'informations par le Canard Enchaîné qui montrent un petit peu qu'il y a des problèmes avec le ministère de l'Éducation et son accord avec Microsoft. Ils ont vendu l'éducation nationale à Microsoft pour pas cher, hein. Ils ont même accepté de l'argent en fait, donc ça montre bien qu'il y a un problème. Et on n'est pas prêt d'en sortir, il semblerait.
Heure active, la directive sur le droit d'auteur fait des remous au sein du navire européen, un article de la rédaction.
C'est une lettre qui est remontée à Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, et voilà, ça parle de problèmes qui sont en lien avec tout ce qui se fait en ce moment sur le droit d'auteur au niveau européen, et effectivement, il y a des choses assez embêtantes, des choses un petit peu trop contraignantes à notre goût, donc on va essayer d'étudier un petit peu ce qui se passe en ce moment, il y aura sûrement des évolutions et des articles qui en parleront.
Le Monde.fr, la justice européenne consacre la neutralité du net dans l'UE, un article de la rédaction.
Alors là, hurrah, c'est génial. La neutralité du net, ça veut dire que le facteur n'a pas le droit de bloquer vos lettres, de regarder ce qu'il y a dedans et de les orienter différemment en fonction de ses envies. Mais en tout cas, là, il y a des limites maintenant qui sont claires, qui ont été mises au niveau européen. On ne peut pas faire du zéro rating, c'est-à-dire en gros vous fournir un accès différent pour certains sites, notamment en ne vous faisant pas payer, par exemple, un accès à Wikipédia. Je crois que c'est au Portugal.
C'était une info commerciale d'un fournisseur d'accès portugais qui a déclenché cette procédure. Donc, très bonne nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table depuis un paquet de temps. La Gazette.fr, la vague des communs arrive. Un article de Delphine Gerbeau.
Alors, les communs, c'est une façon de voir l'économie différente. Et on a beaucoup parlé parce qu'on aime beaucoup, beaucoup ce sujet-là. Donc, ça réaborde l'idée. Et notamment en reparlant de cette prix Nobel qui avait mis en avant la gestion des communs. Tu te rappelles de son nom ?
Elinor Ostrom.
Donc quelqu'un de vraiment intéressant. Donc c'est très bien que ça descende au niveau des communes. Les communs, c'est super approprié.
Association mode d'emploi, les chatons concurrence, les GAFAM, un article de Laurent Costi et Angie Gaudion.
Donc ça parle des chatons. Donc là, on n'a pas Mag qui va pouvoir nous faire l'énonciation des différentes lettres, mais en gros, c'est une émanation de Framasoft, beaucoup de services, beaucoup de briques proposées sur Internet qui vous permettent de faire plein de choses super intéressantes et qui vous permettent de ne pas passer par les GAFAM.
Donc Laurent Costi est administrateur de l'April, hein, rappelons-le, et Angie est, elle, salariée de Framasoft. Donc c'est une tribune, hein, plutôt qu'un article pur et dur. Dernier article dont on fera notre sujet du jour, ZDNet France, le LZ Hub, de nouveau attaqué devant le Conseil d'État, un article de Clarisse Treille.
C'est tout un collectif, le CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre, qui a saisi le Conseil d'État. Et donc là, le sujet, c'est les données de santé des Français. Et l'État français a contracté avec Microsoft pour qu'elles soient hébergées sur le nuage de Microsoft. Et c'est très embêtant aujourd'hui. Justement, il y a pas mal de choses qui remettent en cause cet accord, qui sont en train d'être discutés en ce moment même, notamment suite à l'invalidation du Privacy Shield.
Voilà, donc le Privacy Shield, c'était une sorte d'accord entre les États-Unis et ses alliés en disant, on va rester bons copains au niveau de l'utilisation des données que vous pouvez avoir hébergées chez nous.
Ouais, c'est le bouclier de, de vie privée.
De vie privée, donc un truc dont on ne sait pas trop ce que ça pouvait valoir, puisqu'à côté de ça, il y a le Patriot Act qui fait que les entreprises américaines doivent faire ce que leur dit le gouvernement et mentir si nécessaire pour le cacher.
C'est-à-dire que le gouvernement peut regarder dans tout ce qui est hébergé par les entreprises américaines, et en plus, si les entreprises américaines, on leur demande, elles doivent mentir et dire que non, elles ne travaillent pas avec le gouvernement.
Voilà, alors on peut imaginer que le Privacy Shield protégeait dans la dimension commerciale d'exploitation ou de revente des données. Bon, en tout cas, ce truc n'existe plus, donc...
Depuis juillet voilà. de cette année.
Et bon, à la tête des États-Unis, il y a un type complètement taré, donc on ne sait pas ce que ça peut donner, et raison de plus pour se dire qu'on veut rester maître de nos données, et c'est pour ça que de toute façon, on doit rester maître de nos données, même si on s'entend bien avec les gens qui hébergent nos données, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et là, on a la parfaite illustration.
Alors, Microsoft et l'État français, eux, revendiquent que ce sont des données qui sont chiffrées, qui seront hébergées dans le cloud de Microsoft, et qu'en plus de ça, ce sont des données anonymisées. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas les noms et prénoms des Français qui devraient être hébergés sur Azure, hein, c'est le nom du cloud. Et donc là, bah, ça devrait être bon, quoi, non ? Quoi, c'est chiffré, c'est anonymisé, c'est quoi le problème, non ?
Alors de fait, c'est étudié, hein, c'est une recommandation de la CNIL qui a trouvé effectivement que ce truc-là pose quand même des problèmes. Il y a des gens qui disent que les recommandations de la CNIL ne sont pas applicables et que ce ne sera pas faisable, donc on a quand même de gros doutes là-dessus.
Et puis le chiffrement, d'une manière générale, il y a la NSA qui est en face, donc c'est la plus grosse administration de renseignement du monde, et dedans ils ont des quantités de mathématiciens qui sont juste phénoménales. A priori, ils ont des algorithmes qui leur permettent de percer beaucoup de systèmes, et puis chiffrer, comment ils vont chiffrer avec le nuage de Microsoft ? Le nuage qui va se chiffrer lui-même et qui va garantir que tout va bien ?
Alors, on pourrait imaginer chiffrer en amont. Après, voilà, encore une fois, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Aujourd'hui, il y a les premiers ordinateurs quantiques qui tournent dans les laboratoires, et on sait que c'est typiquement le genre de technologie dont on dit qu'à l'avenir, elle sera extrêmement puissante pour déchiffrer, et que toutes les données chiffrées aujourd'hui seront quasi transparentes le jour où ce truc-là marchera de façon industrielle.
Et les États-Unis sont encore en avance sur le sujet. Et
effectivement. Ça pose plein de questions. Alors, il y a une pétition qui a été lancée sur le site du Sénat. Donc, elle a été publiée le 16 septembre, hein, et donc, c'est pas une pétition de base qui est faite par on ne sait pas trop qui. Et il faut qu'ils atteignent 100 000 signatures pour pouvoir exploiter cette pétition, donc c'est tout à fait atteignable.
Mais c'est un sujet qui est difficile, et c'est peut-être atteignable théoriquement, mais moi je pense que ça va être atteignable difficilement, parce que bah, il faut faire remuer 100 000 personnes en France sur un sujet hyper technique.
Effectivement, après, c'est peut-être à ça que servent des associations qui s'intéressent aux libertés numériques, c'est effectivement aussi de relayer ce genre d'initiative-là.
Alors c'est déjà pas mal, hein. Il y a eu d'autres pétitions qui ont été montées dans le passé, sur plusieurs autres sujets, bah, notamment le ministère de l'Éducation, qui est une autre branche de toutes ces problématiques. Donc là, ça nous inquiète pas mal, parce qu'une fois que les données de santé sont diffusées, on ne peut pas les reprendre, hein, comme qui dirait. Et donc là, si on les donne à nos amis américains, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire derrière, on n'a aucune garantie. Sans oublier que l'incompétence existe et qu'il a déjà été remarqué que parfois des données de ce type-là ont fuité. Je crois que les données des soldats américains ont fuité. En Asie, en Inde, les données des passeports, des papiers d'identité des Indiens ont fuité. Grosse quantité.
Et il y a la compétence aussi. Hein. La santé avec la banque, c'est l'Eldorado annoncé pour les GAFAM. Donc c'est le nouveau dans le domaine dans lequel ils veulent mettre leurs billes. Et ils ont tout intérêt à avancer, et Microsoft, avec ce genre de données-là, sera assis sur un gâteau très intéressant. En même temps, il va y avoir des forces pour privatiser les services de santé, etc. Du coup, c'est mettre un pied dans cette direction, et avoir des GAFAM qui sont en bonne position pour exploiter tout ça.
Alors, en Angleterre aussi, on dirait qu'il y a des accords un peu semblables qui sont en train d'être mis en place.
Alors, ils ont pris de l'avance, puisque l'équivalent de la sécurité sociale en Grande-Bretagne a passé un accord avec Amazon, et où ils ont déjà connecté leur base de données sur les services Amazon, de telle sorte que les assurés britanniques puissent choisir à l'avenir de faire gérer leurs données de santé par Amazon s'ils le veulent. Mais voilà, le truc est techniquement déjà fait, et j'imagine bien cette logique économique en disant « Ah bah Amazon, c'est pas cher, c'est gratuit, ils sont super puissants, donc allons-y, si les gens veulent y aller, et bah pas de problème, de la même façon qu'aujourd'hui, les GAFAM sont alimentés avec les données des gens à tour de bras, parce qu'ils offrent des services gratuits, ou pseudo-gratuits hein, plutôt. » La même chose est en train de se mettre en place avec les données de santé.
Moi, je tiens à faire remarquer que les GAFAM qui s'emparent de ces sujets-là, ça peut être très intéressant, hyper innovant. Ils peuvent apporter vraiment une pierre importante à l'édifice. Je veux dire, calculer les données de santé mondiales de tous les habitants, en ressortir des corpus d'informations qui leur permettront de peut-être mieux contrôler notre conduite, mieux contrôler notre santé, mieux contrôler ce qu'on dépense. Je veux dire, ça peut améliorer la santé de l'être humain sur toute la planète.
Oui, oui, mais c'est comme la surveillance en Chine, hein, ça apporte plein d'avantages, et notamment les gens qui sont bien notés, ça leur facilite la vie, ils n'ont pas besoin de justifier des trucs, ils n'ont pas besoin de payer des cautions, etc. D'une façon générale, la surveillance, le fait de générer de la donnée sur une population, c'est pas neuf, c'est une technique qui est apparue avec la modernité, et où on a commencé en faisant des statistiques, tous les trucs qu'il y a dans Foucault, hein, dont je suis super fan, et ça a des côtés liberticides pour les individus. Mais collectivement, ça reste une technique qui peut être effectivement puissante, et dans le domaine de la santé, on peut faire des stats et avoir des nouveaux moyens très puissants pour faire de l'épidémiologie, savoir quels sont les vrais risques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique, etc. etc. Mais là où tu es un troll et un provocateur, c'est que si ça doit se faire, c'est pas les GAFAM qui le feront.
C'est les GAFAM qui le font en ce moment.
Elles passeront par la case privatisation des données, ou en tout cas de l'exploitation des données personnelles, etc. On sait qu'aux États-Unis, où le domaine de la santé est très largement privatisé, leur système de santé coûte extrêmement cher pour une performance très faible.
Je crois que c'est 3 fois plus cher qu'en Europe, hein, oui. En moyenne.
Voilà, et donc c'est clairement les assurés américains, les clients, payent la part du bénéfice, et donc du coup ils payent très cher pour avoir une protection sociale et des soins qui ne sont pas très bons. Comparativement au coût que ça a. Les GAFAM, on sait quel est leur modèle et on sait d'où ils viennent. Et pas trop de doutes sur le fait que c'est ça qu'ils veulent reproduire.
Alors c'est une direction qu'ils sont, semble-t-il, en train de prendre vraiment très rapidement. Moi, je rappelle, les dirigeants de certaines de ces entreprises sont eux aussi intéressés par la santé. Mais en général, ils vieillissent, hein, comme nous tous. Ils s'intéressent à ce qu'on appelle le transhumanisme, une évolution de l'être humain. Peut-être que ça passe par ça, tu vois.
Theranos est là pour leur permettre de vivre très longtemps.
Theranos.
C'était une énorme escroquerie avec une jeune femme très belle et très très brillante qui disait qu'elle avait des technologies de pointe dans les biotechnologies pour vivre très longtemps. Elle a raflé $1 milliard où tout le monde dit « Oh super !» et puis elle est partie avec.
Oups. Mais là, on a confiance. Je veux dire, Jeff Bezos, il n'a pas besoin d'un milliard de plus. Il ne va pas partir juste si on lui donne 1 milliard. Jeff Bezos, c'est bon.
Oui, non, mais il aime bien avoir 2 milliards en plus. Donc moi, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'on va mettre les pieds dans un truc où être exploité pour faire plus de bénéfices, prendre plus de contrôle sur la vie des gens. Et puis, rien ne les empêchera de croiser les données qu'ils ont déjà avec les nouvelles données. Et donc, il y aura une emprise de plus en plus importante. Et là-dessus, les secours de téléphone ne nous sauveront peut-être pas.
Quoi? De quoi tu parles? Les quoi de téléphone?
Alors, c'est un truc dont je suis assez fier. Il y a des années de ça, on était tombé sur un article qui disait, alors je ne sais plus dans quel pays asiatique, probablement la Chine, que les assurances faisaient payer moins cher leur prime d'assurance si les gens mettaient une appli qui surveillait le nombre de pas qu'ils faisaient par jour.
Un podomètre. Hein.
Voilà, un podomètre dans le téléphone, en disant, si vous avez une activité physique plus importante et que vous marchez au lieu de prendre votre voiture, eh bien, on sait que c'est bon pour la santé statistiquement, et donc du coup, vous paierez moins cher. Et donc, quand j'avais lu ça, j'ai dit, un jour, il y aura des gadgets qu'on posera sur le bureau pour secouer le téléphone, pour faire croire qu'on marche. Et de fait, ça existe. Donc, ce jour-là, je suis assez autosatisfait. J'avais fait une prédiction qui s'est révélée exacte.
Sachant qu'on sait bien, hein, les assureurs vont potentiellement dans toutes ces directions-là, notamment suivre les conducteurs dans leur véhicule et savoir ce qu'ils font, leur style de conduite. Est-ce que c'est un style de conduite à risque? À risque. Et là, on est à 2 doigts d'y arriver. Est-ce que les conducteurs ont dépassé les limites de vitesse? Est-ce qu'ils ont utilisé leur voiture, tout simplement, ne serait-ce que ça? Donc, toutes ces données vont commencer à être utilisées de plus en plus. Moi, perso, en tant qu'informaticien, ça me plaît bien. J'aime beaucoup l'idée qu'on utilise l'informatique pour traiter les informations de la planète et pour améliorer le traitement de l'être humain. J'adore.
Ouais, et ça, c'est un sujet ultra politique. Et c'est pour ça que les actions comme l'April et d'autres associations du genre sont importantes. C'est que c'est politique. C'est-à-dire que oui, on peut faire des choses bien pour l'humanité avec plus d'informations, mais on peut faire des trucs absolument abominables également. Et c'est bien un enjeu politique, et c'est un enjeu de pouvoir, et savoir comment on fait pour tirer du bénéfice de toutes ces choses-là, et non pas se faire exploiter et tomber dans un système d'oppression.
Comme tu disais, hein, Jeff Bezos, il sait tirer du bénéfice, pas pour l'humanité.
C'est ça, c'est un machin un peu tombé en désuétude qu'on appelle l'intérêt général.
Ouais, non, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, voyons, tu trolles. Tu trolles, c'est toi, là, ce coup-ci.
Ok, bon, bah, on va penser rien qu'à nous pendant toute la semaine.
Oui, on va profiter pour travailler notre santé, je sais pas, on va réfléchir.
Tu me donneras tes chiffres du cholestérol. Hein.
Oui, je vais les partager. Je les ai mis sur un cloud quelque part, mais je crois que je les ai plus avec moi.
Et salut tout le monde.
À la semaine prochaine.